Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vient vous faire une petite émission sur les espèces invasives. Nous sommes Mathias et.
Et moi, je suis Chloé.
Du coup, on est tous les deux stagiaires à France Nature Environnement, du coup, des Alpes de Haute-Provence. Tout d'abord, on vous laisse présenter un petit peu pour que vous nous connaissiez. Donc, moi, c'est Mathias. J'ai 22 ans et du coup, moi, je viens de. Du nord, un peu de Brest, et je suis en étude à Cherbourg sur l'environnement marin. Pas spécialement la spécialité d'ici, puisqu'il n'y a pas trop la mer, mais du coup, je suis aussi dans la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Voilà. Et toi, Chloé?
Moi, je suis en BUT génie biologique, option sciences de l'environnement et écotechnologie. Donc, je suis en deuxième année et ce stage de 2 mois, c'est pour me faire découvrir un peu tous les métiers que je peux possiblement faire et peut-être en faire le mien plus tard.
Et du coup, on voulait d'abord faire une présentation rapide de l'association qui est FN04, du coup, qui est France Nature Environnement du département des Alpes de Haute-Provence. C'est une fédération départementale des associations de la protection de la nature. C'est une association qui va être engagée sur le terrain pour défendre la biodiversité, les ressources naturelles et un cadre de vie sain pour tous et toutes. À travers des actions locales de sensibilisation, que ce soit avec le grand public ou avec les scolaires ou enfants, mais aussi à travers des actions juridiques. Avec des participations à des enquêtes publiques et des plaidoyers.
Là, je vais commencer par vous donner une définition des espèces invasives. Donc, c'est assez compliqué à définir. La communauté scientifique s'est pas mise d'accord. Il n'y a pas une seule définition qui est assez neutre et qui a réussi à convaincre tout le monde. Donc, depuis les années 70, la communauté scientifique débat des définitions d'espèces invasives et d'espèces envahissantes. Donc, pour clarifier ces termes, on a décidé de se référer aux documents officiels comme ceux de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et selon ces documents, une espèce invasive est une espèce exotique qui s'établit dans un nouvel environnement et cause des dommages écologiques et ou socio-économiques. Donc, pour qu'une espèce soit qualifiée d'invasive, eh bien, on voit qu'il y a ce critère biogéographique qui est essentiel. Donc, elle doit venir d'autre part, elle doit être introduite et naturalisée. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une descendance dans son nouvel environnement. Cependant, ce critère, il peut varier selon l'échelle temporelle ou géographique qu'on a choisie. Donc, ça complique encore plus la définition. Bien que cette définition, elle soit largement acceptée dans le monde, certains scientifiques remettent en question le fait de définir une espèce invasive uniquement par son origine géographique. La biologiste Sécourier, par exemple, distingue les espèces exotiques des espèces locales qui prolifèrent. Selon elle, une espèce exotique qui se propage est qualifiée d'invasive, tandis qu'une espèce locale qui se prolifère est simplement qualifiée d'envahissante. Bon, de manière plus générale, une espèce invasive peut être définie par deux critères. Son caractère exotique, donc d'où est-ce qu'elle vient, si elle a été introduite, et les nuisances qu'elle cause à son environnement, son nouveau chez-soi. En fin de compte, la définition d'une espèce invasive est à la fois scientifique et politique. La gestion de ces espèces diffère selon qu'elles sont introduites ou natives. Dans le cas d'une espèce locale, c'est un peu plus tendre, on va dire, parce qu'il peut exister des tensions entre la nécessité de contrôler cette prolifération et la volonté de préserver certaines pratiques traditionnelles, comme la chasse par exemple, qui reste ancrée dans les cœurs des populations autochtones, des populations humaines. En revanche, pour une espèce exotique, les décisions de gestion peuvent être davantage axées sur l'éradication ou le contrôle strict afin de limiter les impacts négatifs sur les écosystèmes locaux. On voit qu'on a un peu moins de cœur pour les espèces exotiques que pour les espèces locales. C'est un peu notre volonté de refaire le jardin d'Éden de l'époque. On est nostalgique. Donc, il est un peu difficile de choisir une définition, mais pour aujourd'hui, on va vous donner une définition qui semble être un peu plus acceptée et plus claire. Donc Mathias, est-ce que tu pourrais nous donner la définition?
Alors, du coup, on va procéder par étapes. Tout d'abord, on va définir si une espèce est une espèce non indigène. C'est-à-dire, pour définir ça, on va avoir trois critères. On va voir donc si elle est présente dans une zone dans laquelle elle n'était pas présente avant. Alors, c'est le premier critère. Le deuxième, on regardera si dans cette zone où elle est maintenant, s'il y a une discontinuité géographique, donc c'est-à-dire que si elle n'est pas présente sur l'ensemble du territoire. Et pour ce qui est de la dernière, pour les espèces non indigènes, ça va être si son expansion est directement ou indirectement liée à l'activité de l'homme. Et donc si une espèce possède ces trois caractéristiques, elle est considérée comme non indigène, donc c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de cette région. Et après, on peut essayer de voir si elle a été introduite. Donc si elle a été introduite, ça veut dire qu'elle peut perdurer dans le temps dans ce milieu. Et pour ça, on va regarder si les générations futures seront capables de se reproduire et du coup d'apporter une continuité temporelle dans cette espèce. Et là, alors, on pourra caractériser cette espèce comme introduite. Et le dernier critère qui va définir notre espèce comme invasive, ça va être le fait qu'elle ait un impact économique ou écologique sur l'environnement et les enjeux qui vont avec.
Et donc, toutes les espèces non indigènes ne sont pas forcément invasives, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Une espèce peut être importée et dans une nouvelle zone, mais sans avoir de conséquences directement sur l'environnement, et donc elle ne sera pas considérée comme invasive. On considère qu'il y a une règle de 10. Donc par exemple, sur 1000 espèces non indigènes donc qui sont importées, il n'y en aura qu'une qui sera invasive. Donc c'est quand même très peu comparé au nombre.
Ok, donc ça complexe un peu le phénomène. Et donc de quelle manière elles peuvent être introduites, ces espèces ?
Donc il va y avoir deux types d'introduction. Il va y avoir l'introduction volontaire, donc ça va être par le biais des activités humaines, donc comme l'introduction dans l'environnement pour des raisons ornementales, telles que agricole, chasse, aquaculture, plantation, enfin toutes ces meilleures rentabilités sur certains produits. Donc ça, on pourra caractériser ce vecteur d'introduction comme volontaire. Et le vecteur d'introduction involontaire, ça va plus être via le fret maritime, donc surtout dans les eaux de ballast, où on pourra retrouver forcément dans le sédiment avec des micro-organismes ou des choses comme ça, ou dans les eaux de ballast via des larves de poissons ou de n'importe quel type de faune ou flore. Et il y aura aussi sur la coque via le biofouling, qui est la couche biologique qui va recouvrir la coque, qui peut aussi transmettre des espèces. Donc la réussite d'une espèce non indigène à s'introduire, ça va être surtout si le nouveau milieu dans lequel elle va être implantée ne présente pas de prédateurs directs à elle, ce qui va du coup lui permettre de concentrer toute son énergie dans la reproduction et donc non dans la défense, et donc ce qui va du coup entraîner une expansion assez rapide, ce qui est souvent le cas. Et une deuxième de ces réussites, ça va être surtout l'artificialisation de certains milieux, par exemple que ce soit les ports, toutes les artificialisations vont souvent être favorables à l'expansion de ces nouvelles espèces non indigènes.
Et donc, depuis ces dernières années, comment leur nombre évolue ?
Donc, aujourd'hui, par exemple, après, ça reste des estimations, mais on estime à 12 000 le nombre d'espèces non indigènes. Et pour les espèces qui sont catégorisées par l'Union européenne comme sensibles et qui peuvent avoir un impact sur les milieux, on serait entre 70 et 80 à peu près. Après, c'est des nombres qui changent beaucoup et qui sont très compliqués à caractériser dû à la complexité, on le verra après, de tous les enjeux qui vont avec derrière. Et ils évoluent de manière assez... Par contre, le nombre d'espèces introduites dans les milieux est en augmentation. Par exemple, si on pouvait donner quelques chiffres, en mer Baltique, il y a eu une augmentation de 86%, en Atlantique, de 173%, et en mer Méditerranée, de 204%. Et du coup, maintenant, quels sont un peu les impacts de, de ces espèces, du coup, sur les milieux.
Donc oui, il y a une grande importance. C'est important de se préoccuper de ce genre d'espèces parce qu'elles vont avoir divers aspects impactants sur notre environnement. Donc premièrement, sur la biodiversité, où elles peuvent jouer le rôle de prédateurs. Elles peuvent concurrencer avec les espèces locales pour les ressources. Donc par exemple, on parle de l'écureuil gris, qui est plus gros que notre écureuil roux local et qui ont le même régime alimentaire. Donc comme il est plus gros, il va réussir à plus prendre ses graines, etc. Donc là, il s'approprie le territoire de l'écureuil roux. Et on le voit d'ailleurs, il y a de moins en moins d'écureuils roux sur le territoire des écureuils gris. Ensuite, ils vont pouvoir servir de vecteurs de maladies. Donc l'exemple type, c'est le moustique tigre, par exemple. Là, ça va nous toucher, nous. Et ils peuvent aussi s'hybrider avec des espèces natives. Là, on parle par exemple d'un petit canard, c'est l'Eris mature à tête rousse, qui est donc une espèce invasive et qui va s'accoupler avec sa cousine indigène, l'Eris mature à tête blanche. Et comme ils ont un gène qui est plus fort que l'espèce locale, cette espèce locale va réduire et donc les populations locales, il y en aura de moins en moins. Ensuite, il va y avoir un impact sur l'économie. Donc, il y a des espèces qui peuvent ravager nos cultures, que ce soit agricole, piscicole. On parle par exemple des pucerons. Et selon l'Office français de la biodiversité, en Europe continentale, les coûts générés par la gestion et la réparation des dommages causés par les invasions biologiques sont estimés à plus de 12,5 milliards d'euros par an. Dans le rapport d'évaluation sur les espèces exotiques envahissantes et leur contrôle fait par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, 218 espèces sont responsables de l'extinction de 1215 espèces locales. Donc on voit que le rapport espèces invasives et espèces locales est quand même faible, mais elles arrivent quand même à réduire énormément de populations locales. Enfin, il y a la santé humaine. Donc, certaines espèces invasives, comme le moustique tigre, comme je disais tout à l'heure, peuvent transmettre des maladies dangereuses, telles que la dengue ou le virus Zika, et mettre ainsi en danger la santé publique. Ainsi, il est donc crucial de comprendre leur mode d'introduction et leurs impacts pour mieux les gérer et protéger notre environnement, notre économie et notre santé. On va vous laisser sur une petite musique pour faire la pause.
Those days are over. You don't have to sell your body Et bien voilà, on reprend donc un moment pour la Terre avec Chloé et Mathias.
Donc maintenant, pour illustrer un peu nos propos, on a choisi de vous présenter quelques espèces, enfin quelques exemples d'espèces qui sont caractérisées comme invasives. Et du coup, on va commencer avec une première espèce végétale terrestre qui va être présentée par Chloé.
Et oui, donc c'est l'ambroisie. En France, il existe 4 espèces d'ambroisie, dont 3 qui sont reconnues comme nuisibles à la santé humaine. Donc je vais vous les citer, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroise triphide et l'ambroisie à épinisse. Ces plantes, originaires d'Amérique du Nord et appartenant à la famille des astéracées, peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. Elles prolifèrent dans les milieux perturbés par l'activité humaine, comme les bords de route, les terres agricoles, les friches, chantiers, bords de cours d'eau ou encore les jardins privés. Introduites accidentellement en France depuis les années 1860, notamment avec l'importation de semences de trèfle violet en provenance des États-Unis, ce n'est qu'en 1966 que son rôle dans l'apparition d'allergies au pollen, soit pollinose, a été clairement documenté, notamment par Ertouraine à Lyon. L'ambroisie est une plante hautement allergisante. Son pollen est classé comme ayant un potentiel allergisant fort par le RNSA, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique, soit la classification la plus élevée. Les symptômes liés à son exposition sont principalement respiratoires et oculaires. Rhinite allergique, conjonctivite, pouvant évoluer vers de l'asthme dans 50% des cas ou aggraver des asthmes existants. L'apparition des symptômes est particulièrement marquée en fin d'été, au moment de la pollinisation.
En ce moment, est-ce qu'il y a des vecteurs qui augmentent son développement, par exemple ?
Et oui, la progression de l'ambroisie est en grande partie favorisée par le réchauffement climatique. Des hivers plus doux, des printemps précoces et des étés plus longs permettent à la plante de se développer plus tôt, plus longtemps et dans davantage de zones, augmentant ainsi la durée et l'intensité de sa pollinisation et aggravant ses impacts sanitaires. L'impact sanitaire et économique à l'échelle du pays a été calculé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en 2020. Donc entre 59 et 186 millions d'euros par an, c'est le coût de la prise en charge médicale. Donc là, par exemple, on parle des médicaments, des consultations. Et entre 10 et 30 millions d'euros par an, c'est les coûts des pertes de production basées sur les arrêts de travail.
Et donc, quelles sont les principales stratégies de prévention et de lutte contre cette ambroisie ?
Donc, la meilleure stratégie de lutte contre l'ambroisie repose sur la prévention et l'intervention précoce avant la production de pollen. Donc, pour prévenir l'apparition de l'ambroisie, il faudrait couvrir les sols nus ou en friche avec un couvert végétal. D'ailleurs, on fait le lien avec Sol Vivant de France Nature Environnement. Ça permet d'avoir un sol meilleur, on va dire. Et favoriser les plantes locales à croissance rapide, comme les graminées, pour concurrencer naturellement l'ambroisie. En tant que particulier, si vous repérez des plants d'ambroisie autour de chez vous, attention à la période. Il est conseillé de les arracher manuellement entre mai et juin. En revanche, pendant la floraison, ne touchez surtout pas la plante pour éviter la dissémination du pollen. C'est vous qui donnez les pollinisateurs de la plante, donc on va éviter d'en mettre encore plus partout. Donc il faut marquer l'emplacement pour intervenir au printemps suivant. Si l'ambroisie est repérée sur des terrains publics, comme les friches, chantiers, bords de route, etc., il est important de signaler sa présence aux autorités compétentes. Donc maintenant qu'on a vu un exemple sur la Terre, est-ce qu'il existe des espèces invasives dans les milieux aquatiques ?
Donc, par exemple, on pourrait parler du cas de l'huître creuse, que vous connaissez sûrement, car c'est aujourd'hui l'huître qui est la plus... produite par les conchyliculteurs en France, alors que de base elle est d'origine japonaise et elle a été importée dans les années 70 environ pour faire face à l'huître portugaise qui était touchée d'une maladie sur cette période. Donc depuis les années 90, elle est considérée comme invasive, comme elle s'est échappée et répandue dans le milieu naturel, en dehors des espaces de conchyliculture. Et elle a créé plusieurs conséquences sur l'environnement, qui ont été l'uniformisation des substrats rocheux, des modifications sur les processus sédimentaires aussi, et forcément aussi une compétition accrue pour les espèces locales du même type de régime alimentaire. Donc son expansion, elle a été très développé plutôt en Atlantique et mer du Nord. Sa prolifération a été assez restreinte en mer Méditerranée. Mais du coup, aujourd'hui, on peut voir que peut aussi y avoir des espèces qui ont été introduites et qui marchent, enfin qui du coup sont très présentes et que maintenant on se rend même plus compte que c'est des espèces qui ne sont pas originaires d'ici, parce que quand on nous parle d'huîtres creuses, on nous parle d'huîtres creuses de n'importe où, on ne va pas se douter qu'elles viennent du Japon. Mais du coup, voilà pour l'huître creuse.
Donc la dernière espèce invasive terrestre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le frelon asiatique. Donc d'où son nom, il est d'originaire d'Asie, plus particulièrement de Chine. Donc le frelon asiatique a été introduit accidentellement en France en 2004. Ils ont fait des recherches et on a eu le témoignage de celui qui l'a accidentellement apporté. Donc c'était par le biais de poteries qui venaient de Shanghai. Depuis, il s'est largement répandu sur l'ensemble du territoire national. Le frelon asiatique est aujourd'hui classé danger sanitaire de deuxième catégorie pour l'abeille domestique dans toute la France et figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne. Il a un impact multiple et préoccupant. Premièrement, le frelon asiatique se nourrit donc principalement d'abeilles, contribuant à leur surmortalité. Cette prédation menace non seulement l'apiculture, mais aussi la production fruitière, qui dépend fortement de la pollinisation réalisée par les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Son régime alimentaire comprend 30 à 60% d'insectes pollinisateurs. Donc cette diminution fragilise les écosystèmes naturels, ce qui perturbe les équilibres de nombreuses espèces végétales et animales. Pour l'homme, une piqûre de frelon asiatique peut provoquer une réaction cutanée allergique et dans certains cas graves, entraîner un arrêt cardio-respiratoire.
Mais comment on peut lutter face à ce frelon asiatique?
Donc il y a deux méthodes de lutte contre le frelon asiatique. D'abord, il y a le piégeage des reines fondatrices qui doit être effectué entre février et mai, puis en octobre et novembre. Donc il faut que les pièges soient hyper sélectifs parce que sinon on va venir, ça se trouve, prendre d'autres espèces locales et donc c'est pas ça qu'on veut. On veut éliminer entre guillemets celles qui nous embêtent. Mais ça, on en parlera tout à l'heure parce que c'est pas vraiment notre mental, on va dire. Ensuite, on peut détruire les nids. Donc cette méthode, elle est efficace seulement de mai à novembre, lorsque les colonies sont actives. L'intervention doit être réalisée par un professionnel agréé en suivant des pratiques respectueuses de l'environnement. Parce que si on veut éliminer une certaine espèce, on va éviter de mettre des insecticides, par exemple, qui vont toucher non seulement le frelon asiatique, mais aussi d'autres insectes, puisque c'est un insecticide, et donc réduire d'autres populations locales. La lutte contre le frelon asiatique repose sur l'implication de chacun. Il est important de signaler les nids détectés, de participer aux campagnes de piégeage et sensibiliser son entourage à ce problème majeur pour la biodiversité et la santé publique.
La dernière espèce invasive dont nous allons parler aujourd'hui est l'écrevisse de Louisiane. Vous la connaissez peut-être. Elle a été importée à la base en France pour diversifier la production de crustacés. Puis certaines ont réussi à s'échapper de ces élevages et à s'introduire dans le milieu. Du fait aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de prédateurs, elle a réussi à s'introduire très rapidement dans ces rivières.
Ok, du coup, quels sont ses impacts à l'écrevisse de Louisiane ?
Ses impacts sur l'environnement, ça va être surtout qu'elle creuse de nombreuses galeries qui vont fragiliser les berges de la rivière et qui vont favoriser du coup l'érosion. Va y avoir aussi la compétition avec les écrevisses locales qui vont être plus petites en général. Donc ça va être l'écrevisse à pattes rouges et à pattes blanches. Et pour ce qui est aussi des impacts, il va y avoir aussi qu'elle est porteuse de la peste de l'écrevisse qui est mortelle pour nos écrevisses locales. Et il va y avoir aussi sur le réseau trophique qui là va être un peu un double enjeu parce qu'elle va entraîner une baisse des nutriments disponibles pour les autres espèces détritivores. Et par contre, une augmentation pour celle de l'avifaune, telle que les populations de hérons. Et voilà. Donc, pour illustrer un peu ce cas assez complexe, j'ai trouvé un article qui parlait qui essayait de faire une enquête sociologique sur l'écrevisse de Louisiane, avec la mise en relation de plusieurs acteurs économiques de la région des Camargues. Donc, étaient interrogés 6 riziculteurs, 4 gardes-canaux, 6 gestionnaires de réserves naturelles et 3 pêcheurs. Donc, des résultats contrastés sont ressortis. Les riziculteurs et les gardes-canaux, pour eux, étaient confrontés à des problèmes de gestion de l'eau et des installations hydrauliques dues aux galeries creusées par ces nouvelles écrevisses de Louisiane, et un impact économique et un surcroît de travail engendré à cause de ces problèmes techniques. Pour ce qui était des gestionnaires de réserves naturelles, c'était un avis, comme on le disait juste avant, très partagé. Il va y avoir des inquiétudes vis-à-vis de la disparition de la biodiversité au niveau des espèces d'amphibiens, d'invertébrés et de plantes. Mais par contre, une ressource alimentaire accrue pour les populations de l'avifaune, telles que les espèces de hérons présentes dans cette région. Pour les pêcheurs qui ont été interrogés, ils considéraient l'écrevisse de Louisiane comme une ressource économique, une ressource éventuelle économique nouvelle. Donc cet exemple, je trouvais qu'il illustrait assez bien le problème de ces espèces invasives, qui sont que derrière leur introduction, il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'acteurs qui sont touchés par ces espèces, et donc qui sont très difficiles à gérer, à émettre des plans de gestion sur ces espèces. Et puis forcément aussi sur le point de vue où par exemple dans le milieu aquatique, gérer une espèce, ça va être très compliqué. Par exemple, j'y reviendrai juste après, mais et puis aussi toutes ces introductions, elles soulèvent aussi une question un peu plus philosophique qui va être maintenant qu'on a introduit ces espèces, que c'est nous qui les avons amenées via le fret, via l'aquaculture, via n'importe tous ces vecteurs d'introduction, on souhaiterait maintenant les éradiquer ou les contrôler ou les scier. Et du coup, forcément, ça soulève de nombreuses questions et de nombreuses interrogations sur est-ce qu'on est en légitimité maintenant qu'elles se sont introduites, qu'elles se sont adaptées à un nouveau milieu dans lequel elles n'étaient pas présentes avant, de est-ce que nous, on devrait maintenant émettre un plan de gestion sur eux. Donc maintenant, on va essayer de vous parler un peu des différents plans de... Enfin, les différentes modalités de gestion qui ont été... qui ont été existantes pour l'instant et un peu utilisées dans le monde. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a eu l'éradication, qui est une méthode assez compliquée à mettre en place sur le point de vue technique déjà, mais comme on le disait aussi sur le point de vue éthique. Donc, il y a eu un exemple que j'avais vu qui était assez extrême, je trouvais. C'était en Australie dans les années 99, c'était dans une marina dans la marina de Darwin, où du coup il y avait eu la prolifération d'une moule à rayures noires qui avait été constatée dans cette marina. Du coup, ils avaient décidé de sortir tous les bateaux, de tous les nettoyer à blanc, de foutre 160 tonnes de javel et 4 tonnes de sulfate de cuivre directement dans la marina, donc dans l'eau, pour éradiquer complètement toute la faune et la flore présente dans cette marina. Donc certes, ça avait marché, mais du coup, que ce soit les espèces locales ou du coup cette moule, tout a été éradiqué complètement. L'opération, elle a duré 21 jours. Et sans compter la main-d'œuvre, elle aura coûté 2,2 millions d'euros. Donc on voit très clairement les limites de cette méthode qui sont, sur le point de vue éthique et économique, très compliquées à mettre en place. Donc ensuite, un deuxième plan de gestion qui est souvent utilisé, ça va être la limitation, qui va plutôt consister à essayer de comprendre les vecteurs d'introduction et les relais d'introduction de ces espèces à l'échelle régionale, à l'échelle plus petite, et essayer de trouver des plans de gestion à plus petite échelle qui vont être plus faciles à mettre en place. Essayer de parler plus des espèces locales, d'avoir une plus grosse communication sur quelles sont ces espèces qui ont été introduites et qui sont parfois invasives. Enfin, essayer d'avoir une plus grosse communication qui vient du coup un petit peu avec le troisième plan de gestion qui a été qui est beaucoup enfin qui du coup est sûrement un peu le plus viable pour l'instant du fait de la dureté enfin de la complexité des gestions de ces espèces qui va être la prévention et la sensibilisation auprès de ces espèces. Notamment aussi en suivant ces espèces introduites, que ce soit sur leur aire d'expansion, sur la vitesse à laquelle elles se propagent, enfin, toutes les données qu'on pourrait récolter sur elles sont forcément nous en apprendraient plus et nous aideraient peut-être à apprendre à mieux les gérer. Et forcément, en sensibilisant toute personne, tout acteur sur les vecteurs d'introduction, sur les bonnes pratiques à adopter, sur quelle espèce favoriser, toutes ces manières-là de faire ça un peu plus passivement. Et du coup, voilà un peu pour les plans de gestion, en tout cas sur ces espèces invasives qui ont été mises en place pour l'instant, mais qui restent très compliquées à gérer.
Eh bien, merci pour votre attention. Donc, nous allons terminer sur le point d'actu de FNE 04. Donc, on vous rappelle que l'application Sentinelle est toujours en service et peut vous permettre de signaler une dégradation ou au contraire une initiative favorable à l'environnement près de chez vous. En parlant de Sentinelle, la campagne Au feu de FNE PACA vous invite à alerter anonymement sur les cas de brûlage à l'air libre grâce à Sentinelle de la Nature. En ce moment, s'effectuent les pesées de gaspillage alimentaire en compagnie d'un membre de l'équipe FNE 04, du personnel de cantine et des éco-délégués. L'objectif sera de surveiller et d'aider au tri et à la pesée des biodéchets dans les cantines. Donc, si vous avez l'envie d'être bénévole et d'apporter votre soutien à un membre de l'équipe FNE 04, ça nécessitera que quelques heures de votre temps. Ensuite, la butinerie est un lieu pédagogique avec des aménagements simples à reproduire et à adapter. Notre objectif est d'encourager chacun à passer à l'action dès maintenant pour préserver la biodiversité. Vous pouvez rejoindre l'équipe de FNE 04 lors de ces chantiers participatifs et contribuer à l'aménagement de cet espace dédié à la biodiversité. On fait d'ailleurs beaucoup d'animations à la butinerie. Enfin, vous pouvez regarder l'Instagram, le Facebook et le site internet. Enfin, le 8 et 25 mai 2025 se déroulera la fête de l'As, donc pour découvrir et partager autour de notre rivière. On parlera de ressources en eau et de biodiversité aquatique. Le 8 mai, ce sera au marché aux fleurs de Bradas et le 25 mai à la foire aux plantes de Moriez. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site de FNE04. Merci et on vous laisse avec la prochaine chanson.
I told you I do, it's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've Eddie the Hag now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Only ever you, I only think. genocide and have got pride. I understand I had to be there from the stand. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had them plying me with drink, even met with their demands. When the cherries lined up, I kept the spoilings for myself till I had 30 ways of dying. Looking at me from the shelf, cloud padded smile I had. A real good child I was, but this island's run by sharks and children's bones stuck in their jaws. Now the morning's filled with cokies trying to talk you through it all. Is their mammy been a gal and is their daddy been a far? And they say they love the land, but they don't feel it goes to waste. Pull a mirror to their youth and they will only see their face. Read like broadsheets, every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks boy. And the bastard walks boy. And the bastard walks boy. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Will I lie?
I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tomb. System in our heads, you only had it before. Echo, 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 the lights they go. The lights they go, the lights they go. Echo, echo. Selling genocide and hardcore fight, I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had a ploy and me with drink, even met with their demands. And I loved you like a penny loves the pocket of a priest. And I love you till the grass around my gravestone is deceased. And I'm heading for the cokies. I will tell about it all. But the God of fear.